ces exposés.
Oui, alors, merci pour ces exposés qui sont vraiment très éclairants. Ce qui me frappe dans la position, pour finir, d'Abrabanel, c'est qu'en fait, il revient à une position quand même très classique. Au bout du compte, Abrabanel revient à une position classique qui est l'idée que la monarchie, la naissance de la monarchie est douteuse. Et ça, les commentaires le disent du début, qu'elle est douteuse. Et cette espèce d'explication de dire, parce que c'est Avodazara, en fait, il revient un peu sur... Il suit, en quelque sorte, pour finir, le même raisonnement. Le raisonnement, j'ai l'impression, est le suivant. C'est que la prémisse, c'est que Dieu est le roi. Donc, c'est lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est le roi? Ça veut dire, comme vous l'avez dit, et comme Abrabanel le dit, c'est lui qui mène les guerres. C'est lui qui mène la guerre. Or, ce qui se passe au moment où le peuple demandant au roi et la motivation du peuple, c'est naturellement, il y a deux motivations. Il y a faire nos guerres et nous juger. Mais là, il y a un problème de vocabulaire qui est instable. Parce que l'ishpot, dans le texte là, ça ne veut pas dire juger selon un tribunal. Les shoftim ne sont pas des juges. On les appelle des juges. Mais si vous lisez les juges, ils ne jugent jamais les juges. En fait, ce que font les juges essentiellement, c'est la guerre. Les juges font la guerre, ce sont des chefs de guerre. Et le roi, c'est celui qui vient se substituer, en quelque sorte, à celui qui... Mais la différence, c'est que le shofet, si on regarde un tout petit peu les genres de shoftim, ce n'est pas une position complètement institutionnalisée. C'est plutôt quelqu'un qui surgit dans le moment du danger et qui l'emporte. Et qui l'emporte, naturellement, il est suscité par Dieu. Donc c'est pour ça que c'est Dieu qui fait la guerre. Dieu suscite quelqu'un qui sauve Israël. C'est ça le schéma qui se répète. Et avec le roi, on est dans une situation où celui qui doit sauver Israël va recevoir ce statut spécial du roi qui va faire que Israël va être comme les autres peuples. Et là, il y a des approbations. Alors, il y a des approbations parce que c'est une médiation. Et donc, la confiance qui doit être totale en Dieu se reporte en partie sur le roi. Donc, d'une certaine manière, le roi, Dieu concède au roi une partie de ses propres pouvoirs. Mais il concède au roi une partie de ses propres pouvoirs parce que le peuple a une confiance défaillante à l'égard du roi. C'est pour ça que la réaction de Dieu auprès de Samuel, c'est de dire « mais c'est moi qui suis le roi ». Mais cette expression que Dieu est le roi, il surgit dans le texte au moment où Israël demande un roi. C'est-à-dire que c'est Dieu qui revendique la position de roi au moment où Israël demande un roi. Jusque-là, Dieu dit pas qu'il est le roi. Il est le roi quand les autres demandent un roi. Or, alors, je pense que c'est le motif de la guerre qui est central dans cette affaire. Et qui est naturellement la peur, donc le manque de confiance, donc le transfert, qui naturellement est toujours douteux, puisque c'est un transfert de Dieu vers un être humain, vers un roi. Or, le problème qui se pose là, c'est que... alors, on en revient au fait que Meller, c'est bien un titre qui est partagé. C'était le point que j'ai essayé de développer dans Persévérance. C'est pas juste que le titre est partagé dans la période, disons, d'après l'exil, post-exilique. C'est que là, on voit déjà que l'imlor, ça peut vouloir dire ce que Dieu fait avec son peuple, et ça peut vouloir dire ce que, je parle sous le contrôle du Rav, ce que le roi va faire ou devra faire auprès du peuple. Une fonction en quelque sorte équivalente. Donc j'en conclus là que Meller, c'est une fonction qui peut être remplie, disons, à la fois par Dieu et à la fois par un roi, de chair et de sang.
Je ne comprends pas très bien le partager. Vous pouvez éclairer un peu.
Quand le peuple demande un roi, Dieu répond que c'est lui le roi. Et pourtant, Dieu dit à Samuel, donne-leur un roi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple a peur et pense que le fait que Dieu soit leur roi ne leur suffira pas pour gagner. C'est pour ça qu'ils demandent un roi, comme les autres peuples, pour aller affronter l'ennemi. Donc en réalité, ça ne veut pas dire que Dieu est destitué. Ça veut dire en quelque sorte qu'il y a un dédoublement. C'est-à-dire qu'il y a le roi qui occupe cette fonction, disons, en titre, et que, à titre supplétif, c'est pour ça que je veux dire, le roi vient à titre supplétif. C'est comme ça que, et comment je comprends l'épisode, et c'est comme ça qu'il est commenté. Et le fait de dire que c'est Avodazara, c'est la raison, c'est ça la raison. C'est que, voilà, c'est que la politique est douteuse, la politique. Le roi de chair et de sang est douteux et ne vient qu'à titre supplétif. Et c'est pour ça qu'Abravanel, naturellement, fin de compte, peut dire « En réalité, on devrait s'en passer. Hein? » En réalité, on devrait s'en passer. Lui, il a d'autres raisons. Il est républicain, par ailleurs. Mais il se méfie de... Il ne veut pas le roi. Et on comprend bien pourquoi il est très embêté par David. Autant Shaoul, c'est pas très embêtant, parce qu'en réalité, Shaoul est encore à moitié une figure de chauffette. D'ailleurs, vous verrez, il n'y a jamais écrit Shaoul Melech Israël, c'est jamais écrit. Il y a David Melech Israël, mais pas Shaoul. Shaoul, on ne le nomme jamais comme ça. Donc il a encore la figure de cette espèce de fonction, flottante. Et d'ailleurs, Shaoul, il est acclamé roi quand il gagne la guerre. Donc en fait, c'est le fait qu'il gagne de la guerre qui lui donne l'aura et qui lui donne la légitimité de devenir le roi. Pourquoi est-ce que c'est légitime? Parce qu'il remplit ce que Dieu, dans cette situation, ne fait pas, c'est-à-dire vaincre sur les ennemis. Alors, et ça c'est un problème que je vous soumets, il y a énormément de commentaires sur la question du roi d'Israël, mais cette question n'a aucune actualité. Je veux dire, pour les Rishonim, c'est une question qui n'a aucune actualité. Ils sont en Espagne, ils sont en France, ils sont à Narbonne, ils sont à Barcelone, ils sont à Tolède. Ça n'a aucune actualité. Alors, Israël n'a pas de roi, et Israël ne vit pas... la question... Donc, c'est une question qui peut avoir un intérêt à terme, le jour où... Mais par exemple, il y a une autre mitzvah. C'est la mitzvah d'aller à la rencontre du roi étranger. Hein, c'est la mitzvah d'aller à la rencontre du roi étranger. Et c'est naturellement dans c'est la question de la politique. Alors naturellement, Abravanel dit Israël n'a pas besoin de roi en situation d'urgence. Qu'est-ce qui se passe en situation d'urgence, en fait? Quand Israël est en situation de danger et qu'il y a urgence, eh bien, c'est Abravanel qui intervient, parce que Abravanel, elle est à côté d'Isabelle la catholique et peut lui dire stop, peut tenter. D'ailleurs, quand les Juifs se font expulser d'Espagne,
elle ne l'a pas tellement écouté, et elle lui a
proposé de rester. Elle lui a proposé de rester, c'est lui volontairement qui a décidé de partir. Alors, ça, j'ai du mal à comprendre exactement Abravanel qui vit dans une période aussi agitée. Il est arrivé au sommet et en réalité, en situation, Abravanel est un shtadlan. En situation de crise, c'est lui qui va plaider auprès du couple royal de ne pas expulser les Juifs, de les épargner, de ne pas leur faire abattre l'Inquisition, etc. Alors, bon, la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a un tel effort de réfléchir à ce que serait le roi si d'aventure il y aurait un retour à la terre d'Israël, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est pas obligatoire? On voit bien qu'en fait, c'est pas ça l'actualité politique d'aucun, mais on peut lire entre les lignes un certain nombre de choses, effectivement. Et ça, c'est souvent dans d'autres commentaires qui ne portent pas sur le roi d'Israël, mais qui va porter sur d'autres situations qu'on peut lire entre les lignes ce que serait une ou ce que doit être une politique en exil. Parce que le roi d'Israël, c'est pas une politique de l'exil, c'est une politique de la fin de l'exil. On n'a pas les éléments d'une politique de l'exil dans le commentaire, dans la réflexion sur le statut du roi d'Israël. Absolument. Ah ben oui.
Ça ne m'empêche pas de venir interpeller sur des conditions d'un dialogue qu'on peut vivre aujourd'hui, nous faire réfléchir.
Absolument.
C'est pas parce que c'est quelque chose qui nous concerne plus que les gestes ne doivent pas nous parler, que nous parler autrement, d'avoir de nous faire réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui autour de nous et voir quel était le regard.
Oui, oui, absolument. Non, non, mais ça n'enlève. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord.
Oui, je voudrais vous dire ce que vous dites. Je ne sais pas si vous avez lu le Rahim. Vous l'avez dit pratiquement mot pour mot. Sur le fait que l'idéal eût été que Dieu fût le roi. Que par dépit et par défaut, Dieu constant, il le dit exactement dans ces mots-là, que ce soit. Et il prend la défense de Rabbi Nehorai, parce qu'il fait le pauvre Rabbi Nehorai, il faut bien l'expliquer, il faut bien lui donner des arguments, et il avance exactement votre argumentation.
Moi, je voudrais juste ajouter le peuple, quand Shmuel est arrivé, il sortait quand même de 300 ans de chaos, avec une alternance de périodes où il n'y avait rien, des juges, une guerre, le juge terminait sa fonction, et puis on repartait à une situation où il n'y avait aucun pouvoir. Et il était quand même un peu exténué. Et puis il y a l'épisode dramatique de la concubine de Diva. Donc le peuple sort aussi de cette période. Il y a quand même eu des générations qui sont succédées avec une période où chacun faisait ce qu'il voulait. Il y a plusieurs fois dans le Nar, on répète cette phrase, en ce temps-là, chacun faisait ce qu'il voulait. Après, quand Shmuel arrive, il rétablit l'ordre, et il était temps, parce que vraiment, c'était le chaos. Et peut-être qu'au moment où peut-être Shmuel se fait âger, et qu'on voit les fils prendre un peu le leadership et ne pas être dans la droiture de Shmuel, le peuple se dit, on ne va pas recommencer, on ne va pas repartir comme ce qu'on a connu avant. Donc c'est peut-être à ce moment-là aussi que leur interpellation elle prend son sens, compte tenu de ce qu'ils ont vécu précédemment et de ce qu'ils voient se profiler avec l'arrivée des fils de Shmuel. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dimension un peu psychologique, historique, qui amène à se poser toutes ces questions et que finalement, dans l'idéal, c'est Dieu qui est le roi et qui gère les choses par un intermédiaire désigné, mais dans les faits, il y a quand même eu 300 ans qui n'ont pas montré, qui n'ont pas été probants de ce point de vue-là. Finalement, ça n'a pas bien fonctionné. C'est une réflexion comme ça.
Parce qu'il y a un moment pour tout. C'était peut-être. Voilà.
Ce serait une concession à la guerre.
Si je peux me permettre, je ne prends la parole à personne. Merci. Abravanel est tout à fait à part par rapport à tous les commentateurs qu'on a cités, parce qu'il a été homme d'État. Et non seulement il a été homme d'État, mais il a observé 4 gouvernements. Le Portugal, l'Espagne, Naples et Venise. Et s'il finit par l'éloge de la République, c'est qu'il en voit une. Venise a toujours été une République. Et a été prospère jusqu'au jour où ils se sont trompés d'océan, mais ils ont été un véritable exemple de gouvernement pacifique. Deuxième chose, il est clair que quand on parle de roi ici, c'est presque toujours un dictateur. Et le XXe siècle nous a montré comment arrive un dictateur. Un dictateur, c'est quelqu'un que l'on choisit parce qu'on pense qu'il est de notre avis et qu'il fera taire ceux qui ne sont pas de cet avis-là. Staline, Hitler, Bachar el-Assad, etc. C'est animal. C'est absolument... C'est comme le fauve dominant dans un troupeau de bêtes. C'est absolument normal. C'est la pente naturelle. Or, je conteste absolument que Dieu soit le roi de tout. Dans la Torah, il n'y a pratiquement pas de politique. Sauf l'intervention spectaculaire de Samuel qui dit le roi, c'est la catastrophe. Mais à part ça, il n'y a aucune recommandation sur la manière de gouverner la cité. Pourquoi ? Parce que l'histoire est une coproduction de Dieu et des hommes. Nasé Adam que Salmeinu. C'était au pluriel. Donc, gérer la cité, les hommes se débrouillent. En revanche, il y a une tyrannie absolue de Dieu sur les comportements individuels et sur le culte. Les lectures de la Torah de ces semaines sont interminables sur les détails les plus minutieux de la manière de gérer les sacrifices. Et quand est-ce qu'on les fait, pourquoi on les fait, etc. C'est une constitution du temple et du métier de Kohanim. Mais ça parle de l'éternel, du sacré, pas du tout du profane. Le profane, les hommes se débrouillent. Les hommes se débrouillent sous réserve d'être eux-mêmes sous la tyrannie des mitzvot qui les concernent. Ce qu'ils mangent, comment ils étudient, comment ils font du commerce, etc., est méticuleusement décrit. Mais en revanche, leur vie collective sur le plan civil n'est pratiquement pas évoquée. Ce qui assure l'extraordinaire pérennité du peuple hébreu, parce que l'éternité d'un peuple repose sur la permanence des familles, des individus, des personnes. Leur vie collective, elle ballotte à tout vent, parce qu'elle est soumise à tous les aléas de la politique. Ensuite, je constate qu'il n'y a pas une seule mention dans tout ce qui a été dit des fédérations et des confédérations, qui me paraissent le plus moderne des gouvernements. En fait, dans la Torah, il y a tout à fait ça. Parce que les tribus ont des individualités extrêmement marquées. Prenez des exemples canoniques de Issachar et de Zebouloun. Il y en a un qui est marin et l'autre qui est agriculteur. Il est clair que les bonnes lois, dans un cas comme dans l'autre, ne sont pas du tout les mêmes. Parce que l'agriculteur, le pouvoir, l'a tout le temps sous la main, tandis que le marin est tout seul en mer. C'est d'ailleurs comme ça que le protestantisme est né, parce que sur le bateau, on n'emmène pas son évêque. Donc, on se débrouille. Eh bien, les 12 tribus avaient 12 visages qui nécessitaient des lois spéciales. C'est un peu comme ça que vivent les pays modernes, puisqu'il y a des rois dans beaucoup de pays qui sont des rois symboliques, qui jouent à peu près le rôle que jouait le Kohen Gadol. Et ça me paraît un bon roi. Y aurait-il encore une Espagne s'il n'y avait pas un roi d'Espagne? Y aurait-il encore une Belgique s'il n'y avait pas un roi des Belges? Ça, c'est absolument pas évoqué dans les débats qu'il y a là. Ce qui montre bien que l'idée même de roi, elle monte et elle descend avec la marée. En fonction des événements, de la technique, des moyens de communication, des moyens de faire la guerre, les sociétés se font une idée plus ou moins bricolée de la façon dont ils veulent choisir un chef. Mais je pense que tous ces débats sont passionnants, mais sont le reflet de leur époque, de leur savoir, pas de la volonté divine.
Je peux me permettre, c'est comme ça qu'on peut lire le texte et se dire le métavers. C'est-à-dire que c'est une affaire d'homme, donc ça doit venir des hommes. Donc comme vous dites, on ne se mêle pas de politique, on donne des idées, mais il faut que ça vienne de vous. C'est la lecture que vous faites.
Voilà, il y a une fois l'exemple de la Suisse. La Suisse est née en 1291. Elle est illégale.
Elle n'a pas le droit.
Elle n'a pas le droit. Personne ne connaît le nom du président de la Confédération helvétique. Et tous les Suisses connaissent le nom du président de la République française qui est l'héritier direct des rois absolus. Donc ça s'arrange pas.
C'est une erreur culturelle.
Moi, je voudrais faire avancer le cheval que j'avais proposé la dernière fois dans le contexte d'aujourd'hui et rappeler que le roi, il a une mitzvah, et d'ailleurs c'est la seule occurrence dans la Torah, de déclamation du texte de la Torah. Le seul qui ait une mitzvah à déclamer le texte de la Torah en public, et là c'est devant hommes, femmes, enfants et nourrissons, tout Israël réuni, au sortir de l'année de la Shemitah, de la cessation des travaux pendant un an, on se réunit tous au Beth Amikdash pour entendre le roi déclamer la Torah.
Excusez-moi, la dernière fois, j'étais déjà préoccupé par votre prédilection pour le verbe déclamer. Qu'est-ce qui vous pousse à l'utiliser si fréquemment ?
Eh bien, je peux utiliser un autre mot plus proche, c'est crier. Puisque l'ikro, c'est ça que ça veut dire. L'ikro, ça veut dire crier, donner de la voix. Et le mot déclamer, il est là pour ne pas utiliser le mot habituel qui est lecture. Parce que dans lecture, pour nous, au XXIe siècle, lecture, c'est même une lecture silencieuse. Or, c'est pas de ça dont il est question. Ce dont il est question, c'est une déclamation sonore qui est justement un acte collectif.
Ce qui me gêne, c'est que j'associe déclamer à la puissance, le désir de pouvoir de l'orateur. Or, en l'occurrence, il est asservi par un texte. C'est ça.
C'est pas chanter. En plus, il chante.
C'est pas chanter. Oui.
Lecture publique.
Alors, clamer, sans déclamer, clamer. Oui, clamer. Mais en fait, c'est ça la véritable traduction. Mais elle est un peu surprenante. Mais l'icro, ça veut dire clamer.
Oui. Parce que clamer un texte, il n'est pas de soi.
Tout à fait.
Et c'est l'orateur qui déclame. Et le prêtre clame.
Clamer. Donc le roi, et personne d'autre n'a une telle mitzvah dans la Torah, a la charge de clamer, de crier les paroles de la Torah aux oreilles de tout le peuple. Première chose. Deuxième chose, et ça on l'a pas lu dans le texte, mais ça figure aussi, et ça c'est comme l'interprétation de la Gemara, le roi il a aussi une... mitzvah particulière, c'est d'écrire pour lui un Mishneh, et Mishneh HaTorah. Le mot qui est utilisé ici, Mishneh, donc un double de la Torah, les sages le lisent aussi qu'il a la, ici, là, il y a la possibilité qui est donnée de faire changer l'écriture du texte de la Torah. Ça s'est passé seulement une fois dans notre histoire, c'est Ezra qui a fait ça. Le roi, il est aussi, donc... Alors, ça fait aussi, peut-être aussi partie d'une autre remarque, c'est que la déclamation, la clamation du roi tous les 7 ans, elle a débuté dès qu'ils sont entrés. Pour ça, le roi, c'est pas seulement la personne du roi qu'on désigne dans le débat qu'on a entendu aujourd'hui entre Rambam et Abravanel. Le roi, ici, ça désigne la personne la plus élevée du peuple. En absence d'un roi de type davidique, le roi, eh ben, c'était Yoshua à l'époque de Yoshua. Mais dans les commentaires, c'est s'il n'y a pas un chauffette à cette époque-là, ça peut être aussi le président du Sanhédrin ou le Kohen Gadol. Roi, ici, ça désigne la personne individuelle qu'on pointe comme étant au sommet du peuple. Donc ça, c'était une première remarque, que le roi, il a explicitement un rôle dans la clamation de la parole de la Torah et dans l'apparition pour nous, à nos yeux, du caractère des lettres de la Torah. Le roi, Ktav Ha-Raoui Le-Ishtanot, c'est une écriture qui est susceptible d'être modifiée, et ça a été fait donc par Ezra, qui n'est pas le roi, mais le... voilà, parce qu'effectivement, à cette époque, il y a aussi un roi, c'est Zerubbabel, c'est pas Ezra. Mais disons que cette, ce rôle-là principal, il est lié donc à la clamation, à la récitation du texte de la Torah et à la forme que le texte il aura sous nos yeux. Ça, c'est une première remarque. Et une deuxième remarque que je voulais faire, c'est par rapport à Abraham Hanel. Toute la démonstration d'Abraham Hanel, elle a été ruinée par lui-même en ayant dit que ce qu'il dit, ça correspond à la vie de Rabbi Nehoraï.
Il dit Rabbi Nehoraï, il dit comme lui.
Et ça, c'est encore pire. Ça, c'est vraiment inexcusable, à peine compréhensible une chose pareille. Mais le fait qu'il ait dit que tout ce qu'il a défendu, c'est la vie de Rabbi Nehoraï ou de Rabbi Nehemia, ça le situe ici hors sujet. Étant donné que s'il veut s'opposer à Rambam, eh ben, il doit ad hominem rapporter les arguments sur lesquels Rambam se tient et le réfuter dans son propre système. S'il veut s'opposer à Rambam, il ne peut pas reprocher à Rambam un avis que lui, il n'a pas retenu. Rambam, il a suivi l'avis de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda a dit « Nommer un roi, c'est une mitzvah ». Si Abraham Hanel, il veut prendre un autre avis, eh ben ok, mais à ce moment-là, il n'entre pas directement en discussion avec Rambam, qui a posé toutes les lois selon Rabbi Yehuda. Donc il a déforcé son argument, il n'était pas obligé, il a déforcé son argument en disant que ce qu'il a dit, il l'a dit au nom de Rabbi Nehemia, et donc il s'est mis sur la touche.
C'est pire s'il n'avait pas d'appui. S'il n'a aucun appui, t'as nous dit que c'est pire.
Qui te dit que Rabbi Nehoraï, il ne savait pas Rabbi Yehuda? Ah, c'est elle qui l'a présenté comme ça.
Bah, ça, c'est marque-quête. Je présentais comme une marque-quête.
Il a dit, l'eau, il n'a pas.
Non, non, moi, je te dis. C'est parce que dans la Gemara, il y a marqué Ella que Rabbi Nehoraï y présente, ouais, en disant Tania. Si, si, Rabbi Nehoraï Omer, le Nemra Parashasu, Ella Keneget Tarumtam. Que Ella, c'est pour spécifier que c'est pas comme ce qui précède, mais seulement comme ce qui va suivre. Mais lui-même, Abraham Hanel, lui-même, il a dit ça. Et c'est étonnant qu'il ne s'est pas rendu compte comment il a ici déforcé son propos en s'affiliant, en affiliant ce qu'il venait de démontrer à un avis qui n'est pas celui qui a été retenu par Rambam. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'on peut entrer en Massa ou Matan, en discussion sur une interprétation du texte.
Oui, mais elle est excellente, mais il est gêné par le fait que d'abord la plupart des décisionnaires. Non, mais enfin, les plus importants décisionnaires, le Rambam et le Mitratkeno qui l'ont précédé. Donc il est gêné par ça, et puis moi je pense, je suis pas d'accord avec toi, il est quand même obligé de se rattacher au texte. Donc il cherche à se rattacher au moins à un avis de la Gemara. Peut-être lui, il prend la liberté de dire bah, la Gemara, elle ne dit pas que comme qui est là. Elle ne dit rien à la Gemara. Non. Il dit bah voilà, moi j'ai un avis sur lequel je peux m'appuyer.
En tout cas, le Ha-Ra'i, il ne rapportera pas. Il le rapporte dans la page 6. J'ai sur le livre de Rambam. Et là-bas, bizarrement, il y avait des mots à promettre. Comme s'il voulait aussi le rapporter à Rabbi Nehemia.
Mais ta promesse, je veux dire, avec graphie, avec. Tu l'as ou pas?
Oui,
là, il. André qui reprend ce mot-là, il reprend ce mot-là. Et il rapporte le Rambam qui ramène ce mot.
C'est pour ça qu'ils n'avaient pas.
Forcément, il fait référence. Quand Rabbi me dit « Je suis jaloux, mais t'as remettre », forcément, il fait référence à Rabbi Nehoraï. C'est obligé. Donc, il s'inscrit aussi dans Rabbi Nehoraï. Il n'était pas obligé de dire qu'il est marche en quête.
il y a le « et là ». Et non, là, ça veut dire
c'est
seulement en vue de ça, et pas pour la mise. Le « et là », il est important dans la formulation de la vidéo. Il aurait pu s'en passer. Si ce qui veut dire, c'est que les ministères se sont mal comportés à cause de la taromètre, il aurait pu dire comment dire la phrase ? Le Némra Parachazou, Némra Parachazou, Négetta Ronta. Le Lo est là, il veut insister sur le fait que ce n'est que ça.
Et une petite intervention.
Je fais que c'est Rambama. Rambama lui-même utilise le Tarot.
Oui,
Rambama. C'est ça, je pense. Mais en fait, il explique que la Tarot elle était chez Shmuel.
C'est-à-dire que c'était un contexte de ta remède. La réponse de Chouin était.
Alors on a Eva, puis Nicolas. Oui, c'est quelques petites remarques pour essayer de mieux saisir ce qu'on entend par roi. Dans ce qui s'est dit, en fait, il y a la position, enfin, ce qu'entend Danny Trump, c'est-à-dire c'est essentiellement quelqu'un qui a un pouvoir par rapport à la guerre. Il a un devoir, un pouvoir, et un pouvoir de gagner pour protéger le peuple. Par contre, Rav Abitbol, vous nous dites que c'est au contraire un pouvoir interne de déclamation. Hein, de faire entendre la voix de la Torah. C'est donc deux positions, l'une plutôt tournée vers l'extérieur, hein, puisqu'il s'agit de défense, et l'autre est plutôt tournée vers l'intérieur, puisqu'il s'agit d'unifier. Mais je voudrais juste faire une rapide généalogie concernant les rois. En fait, le premier, quand le peuple s'est formé, c'est Moshe qui cumulait les trois fonctions, c'est-à-dire la fonction de leader, on peut l'appeler roi comme on veut, la fonction de juge, et la fonction de Cohen pendant un temps. Il a cumulé les trois. Ensuite, ça s'est séparé, c'est Aaron qui a pris la fonction de Cohen. Il a gardé les deux, celle de leader et celle de chef. Et ensuite, à partir de Josué qui lui succède, Josué règne, en fait. Il fait la conquête, il a la même fonction que le roi. Il fait la conquête, et puis il y a la fonction du Cohen Gadol à côté. Alors ensuite, on a toute la période des Shoftim. Les Shoftim, moi, je ne vois pas vraiment la différence avec les rois, parce que si on voit par exemple le règne de Samson, Samson, on nous dit, enfin, il a régné 40 ans, il donnait des jugements qui faisaient l'unanimité, y compris chez les ennemis, et sa fonction essentielle était de préserver, de faire la guerre contre les Philistins. Et d'ailleurs, quand il est né, il était né et annoncé comme un sauveur. C'était le sauveur d'Israël. Bon. Donc il a cumulé les fonctions, les trois fonctions aussi. Et alors, ce que je voudrais, voilà, l'hypothèse que je lance par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, c'est qu'en fait, peut-être que la fonction de roi, elle rentre dans la question du double langage. Qu'on voit déjà dans la Megillat, qu'on voit très clairement dans la Megillat Esther, c'est-à-dire qu'il y a un langage interne pour Israël, et vis-à-vis de l'extérieur d'Israël, on a un autre langage, et par rapport à cet autre langage plus universel, eh bien, il faut un roi qui l'assume. Donc, ça, voilà, c'est une question possible. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les élections, parce que finalement, je regardais hier sur Arte la biographie de bien détaillée de Bibi, eh bien, il est américain et il est israélien. Donc la question de ces deux langages, on la retrouve dans le leader. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire.
Je me suis dit que l'idée de dire que c'est optionnel, mais si ça se réalise, il y a des règles. À l'inverse, le peuple vit comme si le roi était une option. Il y a aussi une distanciation par rapport au pouvoir qui lui est reconnu. On doit lui obéir, il y a des lois, il a un prestige, etc. Mais c'est comme si le peuple d'Israël, effectivement, obéissait à une loi et au contraire de cette loi. Et c'est un petit peu le lien que je trouve entre ce que vous avez dit et ce qu'a dit Yona Abisbol.
Une question que je me pose et que je vous adresse. Bon, il n'y a plus de roi depuis longtemps. Il n'y en a plus. La question c'est, la fonction, on voit qu'avec la naissance de la royauté, la fonction du roi est essentiellement celle de faire la guerre, c'est-à-dire en gros, d'assurer la sécurité d'Israël. Israël a peur de l'ennemi, donc il n'y a plus. Toutes les autres fonctions, on pourrait dire, la fonction de la prêtrise, la fonction législative, ont été en quelque sorte transformées, redéfinies dans de nouvelles institutions et des nouvelles manières de faire à partir de la période de l'exil. On est d'accord? Il n'y a plus le temple, il n'y a plus de... Bon. Mais tout a été en quelque sorte redéfini, remanié, de sorte à pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'on a fait de la fonction du roi? À part parler du roi quand viendra le moment où on va devoir ou pas en nommer un, dans un avenir indéterminé. Moi, c'est ça ma question. C'est une fonction. Je veux dire, cette fonction, elle existe depuis le début et elle n'a pas disparu. Mais il y a dans le commentaire, il y a dans tout cet univers de commentaires, une réticence à vouloir désigner, dire, tourner autour du problème de qui remplit cette fonction. Alors une manière de la résoudre, très simple, c'est dire c'est Dieu qui remplit cette fonction. D'ailleurs, c'est déjà, dès la naissance de la royauté, c'est déjà annoncé. Où Dieu fait reproche précisément qu'on lui prend sa fonction comme si lui n'était pas capable de le faire. La formule est une formule de dépit.
C'est le peuple qui ne peut pas accepter.
Comment ?
C'est le peuple qui ne peut pas accepter.
Mais voilà. Et donc, la question c'est, qu'est-ce qui se passe avec la fonction de la royauté ? Depuis l'exil, qu'est-ce qui se passe avec la fonction de la royauté ? Où est-ce qu'elle est dans les commentaires? Où est-ce qu'elle est? Pourtant, si les Juifs ont continué d'exister, c'est pas seulement parce qu'il y avait des familles, c'est pas seulement parce qu'il y avait que ça s'est transmis à travers la famille, c'est pas seulement parce qu'il y avait des Kehilotes. C'est aussi parce que cette fonction a été remplie d'une manière ou d'une autre. Où sont les commentaires? Où se trouve l'organisation? Où se trouve comment cette fonction a perduré? Moi, je vous adresse la question, parce que notamment, Yonah nous a effectivement montré, le roi d'Israël, voilà la mitzvah qu'il doit faire, et on en déduit que la personne la plus importante de la communauté, celle qui est en haut de la pyramide, déclame. Oui, d'accord, mais c'est pas déclamer la Torah, c'est pas assurer la survie du peuple quand il est en danger, n'est-ce pas? On a pu déclamer autant qu'on voulait quand il y avait un problème. C'est pas comme ça que ça a été résolu, quand il y avait un problème, disons, existentiel. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que cette fonction, pourquoi il y a forclusion sur cette question? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas?
J'ai une vie comme ça, comme ça. D'abord, quand on dit qu'on ne parle pas, je ne comprends pas, mais quand on parle, alors moi, quand j'ai une idée comme ça, j'ai entendu ça récemment, j'ai évolué dans le mal, effectivement. Aujourd'hui, il y a une application, ça va peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Il y a une application à l'achat des maassé de cette notion du roi qui ne doit pas être assumée par un guerre. Le roi n'existe plus. Mais il y a des fonctions, en fait, qui relèvent de cette dimension du roi, c'est-à-dire de celui qui décide. Et bien, par exemple, aujourd'hui, à l'Echanassé, il y a des batédinimes, il y a des tribunaux, qui ne donnent pas le droit à un guerre d'être majgiar. Parce que le majgiar, il a cette capacité. Majgiar, c'est un surveillant de cache-route. Et on tire cet enseignement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le mélèr, on peut le trouver à tous les étages. Dans une société, vous allez avoir un chef qui peut, quelque part, avoir cette toute proportion gardée.
Ouais. Comme un sentinelle qui se tient sur la colline.
Non, mais je vous dis, c'est tiré de là.
C'est tiré, mais
oui. Et vous seriez surpris de savoir où c'est...
Où est la fonction? Où est-ce qu'elle est, cette fonction? C'est ma tête.
Vous avez la réponse?
Bien sûr que j'ai la réponse. C'était l'objet de mon livre. Mais le j'ai la réponse. J'ai la réponse, mais pourquoi? Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi pourquoi elle n'est pas vue.
Mais la réponse pour vous, c'est l'intercesseur providentiel. C'est ça le...
Non, c'est pas seulement l'intercesseur providentiel. C'est un certain rapport au roi aussi, qui ne se manifeste pas uniquement à travers. Abravanel, on reprend Abravanel, mais Abravanel a passé quand même sa vie à faire autre chose qu'à étudier la Torah. Hein? C'est pour ça qu'il commet quelques erreurs, parce que il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Mais c'est entre autres l'intercesseur, et c'est toute une approche du rapport avec le roi étranger. Par exemple, je pense que la tefila de Shlom Amalchut, ça fait partie. Là se loge quelque chose de la fonction du roi, mais du rapport au roi étranger. Je veux dire, cette tefila, elle est très ancienne. Elle traverse toutes les communautés, tous les régimes politiques. Ça dit quelque chose d'un rapport avec le roi étranger. Qui, roi étranger? Et on le sait, Koresh, il n'a pas été appelé Mashiach dans le texte. Je ne me trompe pas. Meshirto, Koresh, ton, Koresh est qualifié de loin de Mashiach. Donc il y a déjà dans les textes un rapport qui s'instaure avec le roi étranger, qui est de l'ordre d'un rapport politique. C'est là-dessus que je veux... Et naturellement, c'est rétrospectivement beaucoup plus significatif, pourrait-on dire, de la manière dont les Juifs se sont débrouillés pour continuer d'exister, que la question de savoir s'il y a une mitzvah ou pas une mitzvah, de nommer un roi le jour où, éventuellement, Israël retournera sur sa terre, dans son pays.
Alors on peut aller plus loin là. On pourrait dire que Netanyahou c'est notre intercesseur auprès de Trump, qui est en quelque sorte le roi du monde, le nouveau roi. Il a gardé cette...
Mais on n'est pas...
Quelque part, il se vend de... Il a gardé cette posture. On aurait gardé cette posture...
Non, mais Hertz l'a fait aussi, c'est pas ça la question. Il faut pas que tout le monde je veux dire, c'est pas la question de Netanyahou, c'est la question de retrouver dans les sources mêmes, dans les textes mêmes, de la même manière qu'on le fait pour le roi d'Israël, le travail. C'est de retrouver là les traces et les discussions qui ont été menées sur la question politique. Et dont la partie du roi, dont les discussions sur le roi d'Israël sont naturellement une partie, c'est une partie tout à fait... Mais on voit bien que là, c'est un peu... Ça a l'air dénigrant ce que je dis, c'est un peu du fantasme, dans le sens où, je veux dire, on peut se disputer au Moyen-Âge sur savoir si c'est une mitzvah, pas une mitzvah, mais ça change rien. Ce qui change, c'est l'expulsion, c'est le rapport, voilà, c'est comment on vit dans... Voilà, c'est ça la question qui est politique qui se pose.
Il y a un lien probablement entre les deux, mais il n'est pas dit. C'est très... il y a quelque chose qui me trouble énormément de l'absence de thématisation de cette chose. Alors, le livre, il avait pour but d'essayer d'exhumer quelque chose, mais j'ai conscience que je ne suis pas arrivé au bout de qu'il y a encore du travail. Mais voilà, c'est peut-être... Voilà, c'est une question que je me pose, hein, donc question que je mets sur la table. Et naturellement, on dit immédiatement, mais je sais pas si on parle ici du roi, etc. Il y a personne qui dit Netanyahou. Non, tout le monde comprend que ça n'a rien à voir avec Netanyahou. Pourquoi est-ce que quand je dis Koresh a été appelé Messie, tout à coup, on voit l'actualité sauter aux yeux. C'est peut-être ce que moi je dis, avoir quelque chose avec l'actualité, tandis que là, ça n'a pas grand-chose. Là, c'est détaché de l'actualité.
Mis à part Netanyahou, je pense que cette fonction, cette intercession que vous avez évoquée tout le long de l'exil, elle perdure d'une certaine façon alors qu'on a un État et qu'on a besoin de se rassurer en permanence du soutien d'une puissance de la plus grande puissance. Ce n'est pas nécessairement Nathalie, je pense que le prochain qui viendra aura le même souci.
Je vais faire une petite observation car il est déjà tard. C'est que vous, dans votre appréhension de la politique juive, vous me paraissez manquer quelque chose d'une dimension qui, par exemple, pour le Maïmonide qui écrit les Ilhot Melachim, n'a rien du tout d'académique ou de repoussé à lointain avenir. C'est la dimension messianique qui détermine une partie, et c'est ce que développe d'ailleurs Avi Ravitsky dans un autre de ses livres. Qui détermine en fait le comportement des commentateurs et des commentaires sur la définition de ce que c'est qu'un roi, la nécessité qu'on en a. Mais c'est une dimension qui est extrême. Alors pour vous, elle est peut-être mythique, mais c'est une dimension qui, par exemple, pour Maïmonide, est extrêmement présente, puisque lui-même pense que le Messie, pour des tas de raisons qui ont été développées par Israël Yuval, que la venue du Messie est très proche et qu'il faut donc organiser le pouvoir politique qui va venir immédiatement, et donc même peut-être il se dit l'annonciateur très proche. De même que, par exemple, le messianisme et la fidélité au messianisme déterminent une certaine forme de passivité des milieux orthodoxes par rapport au sionisme. Et c'est une adhésion forte à cette idée messianique qui détermine un comportement politique qui a ses conséquences dans la relation à l'exil. Alors, j'ai l'impression que on peut pas résumer. Évidemment, la dimension d'intercession et l'état d'urgence sont un mode de réflexion du politique juif importante. Je ne le dis pas, puis je l'ai dit la dernière fois. Mais il y a d'autres éléments qui déterminent la politique, et pas seulement de façon académique, mythique. J'espère avoir l'occasion un jour de développer la vision qu'a eue l'orthodoxie au XIXe siècle et au XXe siècle, et sa réaction notamment par rapport au sionisme, à partir du livre de Ravitsky, mais d'autres sources aussi. Et je pense que la dimension de la fin des temps, du messianisme, elle est fondamentale. Et c'est peut-être quelque chose, en tout cas, qui est très exemplaire chez Maïmonide, et qui donne un sens aussi à la fonction royale.
D'accord, mais... D'ailleurs, beaucoup de commentaires pensent qu'il est très peu. La preuve, c'est que Maïmonide, il dit même que même dans les temps messianiques,
la loi, naturellement tout le monde pense que la loi sera suspendue dans les temps, mais elle sera abolie par les temps messianiques, et lui dit non, pas du tout, la Torah reste et le livre d'Esther. Elles seront maintenues dans les temps messianiques, ce qui a amené beaucoup de commentateurs à dire que pour lui, la venue des temps messianiques n'était pas aussi ni aussi sublime, ni aussi imminent.
Je ne vous rends pas à l'article d'Israël Yuval qui justement comprenait un peu cette vision d'un maïmonique qui serait au fond un contre-penseur du Messie à cause des lettres sur les mains.
Non, mais il y a beaucoup. D'accord. Mais moi, je suis souvent sceptique sur les interprétations que donne Yuval de beaucoup de textes. Non, mais c'est pas.
C'est...
Non, mais il y a chez Yuval. Oui, mais il y a chez Yuval une volonté de parallélisme, de maintenir une espèce de dialectique entre le messianisme juif et une certaine attitude ou un certain messianisme chrétien dans une espèce de parallèle, ouais, qui fait que je pense qu'il a quelquefois des visions un peu biaisées, mais bon, je vais regarder, je le connais pas, je le connais pas, c'est pas pour.
Je sais que c'est ce qui est en jeu dans l'essentiel de ces interprétations. Là, dans cet article précisément, c'est un article historique sur le rapport que Maïmonide entretenait, notamment c'est un article sur son prénom, Moshé, qui était fort rare, et sur le lien qu'il entretenait avec la supputation de la fin des temps et du Messie. Bon, bien sûr, ça c'est peut-être pas mal, je vais faire une dispute là-dessus. Hein.
Non, mais bien sûr. Mais justement, le problème, c'est que ça recouvre. C'est-à-dire que moi, je suis tout d'accord qu'il faut le voir, prendre acte du fait que on peut discuter sur la fonction du roi parce qu'on pense qu'en réalité, ce n'est pas une réalité virtuelle ou potentielle, mais que peut-être ça va venir plus vite qu'on ne le croit et donc il faut s'y préparer. D'accord. Une fois que ça s'est fait, une fois que c'est fait, c'est devant quel roi qu'on est, entre-temps. Et c'est ça qui est toujours le problème. C'est-à-dire que, certes, on se prépare, certes, on est quelque part hors du monde, sous la domination étrangère et hors, disons, du jeu politique tel qu'il se déroule. Mais en fait, on n'est pas tellement dehors non plus. Il y avait toute une série de manières de s'y trouver une place, d'une certaine manière. C'est là-dessus que... Et cette manière de s'y trouver une place n'est pas simplement une espèce d'arrangement pragmatique qu'on concède de faire et qui est à la limite hors de la tradition, mais qu'elle trouve un fondement dans la tradition. C'est ça le point. C'est moins pour, nier le fait qu'il y ait une tradition messianique, ce serait absurde. C'est plutôt pour dire qu'on a tendance à faire de sorte qu'elle vient recouvrir cette autre politique qui est tout aussi légitime et qu'en général, on ne veut pas voir. Et ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne veut pas la voir?
Moi, je ne crois pas qu'elle soit une autre tradition politique. La tradition induit des comportements politiques. Par exemple, je donne l'exemple du quiétisme par rapport à l'État nation moderne, etc. On pourrait trouver d'autres exemples, y compris même dans le comportement.
Mais Abravanel, mais Abravanel a beau faire sa démonstration sur la question du roi d'Israël, ça il l'écrit. Mais quand Abravanel agit politiquement, il n'était pas en train de chercher où est le roi d'Israël, où il n'est pas en train d'inciter les Juifs à partir pour la terre d'Israël. Il ne fait rien de tout ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il plaide le maintien des Juifs dans la péninsule ibérique. C'est ça qu'il fait, concrètement. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention. Et ça, on le retrouve dès actuelle, dès la prophétie de Jérémie, dès les commentaires sur la prophétie de Jérémie, se met en place cette chose-là. Cette chose-là qui est une forme de négociation, mais qui a des fondements très solides et pensés, qui n'est pas juste. Vous voyez, le truc qu'on fait par ailleurs. Et aujourd'hui, on a trop tendance à le penser de cette manière-là.
Bon, ben on voit qu'il nous reste encore de nombreux sujets à explorer. Et on va explorer notamment le messianisme. On garde vos questions en tête et on se retrouve à la prochaine séance mardi 7 mai. Bruno Carcentier interviendra sur l'idée de peuple comme fondement de la politique juive. Donc on change encore, on va avoir encore un nouveau registre. Puis la séance du 16 juin, parce qu'on a mis mardi 7 mai, dimanche 16 juin de 16 à 19h, il y aura également Gérard Bensussan qui interviendra, aussi sur l'idée de peuple. Si d'ailleurs une personne veut intervenir sur ce sujet, peut-être Nathalie, je ne sais pas, mais why not, les candidatures sont ouvertes et en tout cas... Merci à tout le monde, merci Madame Weinstein, merci Robert Weinstein, merci Dany, merci Nicolas, merci Joe, merci tout le monde.
Merci à toi.
Par rapport à la dernière question de Dany, parce que je pense qu'il faut essayer de chercher par là les communautés juives qui ont vécu